Je passe donc la parole à Sabine Procoris, qui est psychanalyste et qui va nous parler de genre et sexualité, question ouverte par l'expérience psychanalytique. Sabine Procoris est l'auteur du sexe prescrit, La différence sexuelle en question, qui était un ouvrage déterminant pour le croisement entre genre, enfin les questions de genre, de différence sexuelle et la psychanalyse, et qui est sorti donc en 2000 chez Aubier.
Enfin, il est sorti chez Aubier, puis il a été réédité en poche.
Voilà, exactement. En 2002.
Bien, bonjour. Je vous remercie de votre invitation. Et je suis très contente d'intervenir juste après tout ce qu'a pu dire Fabrice Virgili. En l'écoutant, je pensais à ce film « I was a male war bride », je ne sais pas si vous le connaissez. C'est traduit en français « Aller coucher ailleurs ». Vous voyez de quel film il s'agit, où il y a, ça se passe à la fin de la guerre, et il y a une histoire d'amour entre deux soldats, un officier français et un officier américain, lequel officier américain est une femme, et comment amener aux États-Unis le soldat français, l'officier français aimé, eh bien en faisant une épouse de guerre. Alors c'est un film, moi, qui me fait toujours réfléchir sur ces questions, justement, genre, sexualité, homme-femme, tout ce qu'a dit tout à l'heure Fabrice Virgili m'a beaucoup parlé, beaucoup touché. Et un élément de ce film ferait pour moi la jonction avec ce que j'aimerais vous dire. Dans ce film, il y a une petite scène au début du film où on voit Gary Grant, qui joue l'officier français, arriver à une sorte d'état-major. Je crois que ça se passe à Berlin, c'est ça. Très impressionnant, comme ça, très imposant. Et il y a toutes sortes de sigles. Genre, c'est comme l'OCDE ou je ne sais pas quoi, il y a des sigles qu'il faut déchiffrer, qui sont très énigmatiques, qui le rendent très perplexe. À un certain moment, il se trouve devant une... Alors, il cherche le bureau de sa correspondante et il essaye de déchiffrer tous ces sigles. Et à un certain moment, il se trouve devant un sigle extrêmement mystérieux qui est L-A-D-I-E-S. Alors, il est là devant, il se demande ce que c'est, il essaye de dire peut-être « Laboratory of Army of Department ». Enfin bon, il y a toutes sortes d'interprétations possibles, et voilà que sort une dame des toilettes, d'un air un peu outré, et il ne comprend absolument pas ce qui se passe. Et je crois que mon point de départ, si vous voulez, ça pourrait être cette perplexité. Ça pourrait être cette perplexité parce que j'avais annoncé cette intervention... question à partir de l'expérience psychanalytique, je dirais que peut-être que la teneur la plus constante de cette expérience, c'est une teneur de perplexité. Bon. Alors, revenons au titre du colloque et puis à ce que j'aimerais essayer d'avancer aujourd'hui. Pas très facilement, c'est un peu malaisé parce que je sais très bien, et on a pu s'en rendre compte déjà tout à l'heure, qu'il existe au sujet de la psychanalyse, me semble-t-il, beaucoup de malentendus auxquels elle a évidemment contribué. Il suffit de lire la presse assez régulièrement, on tombe sur des interventions faites, alors d'ailleurs, non pas tant à partir de l'expérience psychanalytique, et je vais expliquer pourquoi je parle d'expérience psychanalytique, mais on assiste à beaucoup d'interventions qui sont faites au nom de la psychanalyse, et qui sont très souvent des sortes de rappels à l'ordre sexuel. On l'a vu au moment du Pax, on l'a vu aussi avec tout ce qui touche aux questions de l'homoparentalité, de la parenté homosexuée. Et puis, l'année dernière, il y a eu un article, par exemple, d'un de mes collègues qui a publié d'ailleurs un livre que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « L'ordre sexuel », c'est Gérard Pommier, qui sévit beaucoup sur ce terrain-là et qui a publié un article assez édifiant, on peut le dire, sur, vous savez, cette loi qui permet aux femmes, enfin aux parents, de donner le nom et de la mère et du père aux enfants. Et ce qu'il prédisait, en gros, c'était une perte absolue des repères, etc., etc. Enfin, c'est un texte assez terrifiant, mais qui est intéressant quant à la vulgate, si vous voulez, psychanalytique. Parce que il me semble que un des effets lié en plus au fonctionnement des médias, La psychanalyse comme, disons, comme discours, hein, c'est évidemment de produire une vulgate, hein, qui fait que, par exemple, alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas dans des textes de psychanalystes, y compris Freud et y compris Lacan, naturellement, de quoi nourrir cela. Mais finalement, je crois que c'est aussi quelque chose qui alimente le malentendu sur la psychanalyse, qui déjà n'est pas une sexologie, hein, j'aimerais le dire, hein, c'est pas une sexologie, c'est-à-dire que la psychanalyse, en ce qui concerne la question de la ou des sexualités, ne se préoccupe pas tant des pratiques sexuelles que de la manière dont ces pratiques, comme toutes les pratiques humaines, sont traversées par de l'inconscient. L'inconscient ayant à voir avec ce que Freud appelle le sexuel, en effet, mais qui n'est pas exactement le sexué au sens biologique, et qui n'est pas non plus le sexué au sens du genre, tout simplement. C'est-à-dire que le débat, si vous voulez, entre nature et culture est d'une certaine façon quelque chose qui... que la psychanalyse prendrait, je dirais, de biais. C'est-à-dire que la question du sexuel, je vais l'expliciter bien entendu, en psychanalyse, n'a pas à voir avec la nature, avec le corps de la nature, le corps biologique ou anatomique, pas plus qu'elle n'est directement le repli des catégories du genre, c'est-à-dire de tout ce qui est construit culturellement et socialement et qui produirait ce qu'on appelle le masculin, ce qu'on appelle le féminin et les identifications à tous ces contenus. Donc ça c'est la première chose que je voulais dire. Donc très souvent en effet on entend un certain nombre de discours tenus au nom de la psychanalyse qui serait alors comme une sorte de vision du monde ou de sagesse, bon, ce qu'elle n'est pas évidemment, et commencé par Freud dit bien, la psychanalyse, dans un article des Nouvelles Conférences, hein, dans les années 30, que la psychanalyse ne saurait en aucun cas créer une vision du monde, c'est-à-dire quelque chose qui donnerait une hypothèse explicative sur qu'est-ce que c'est que l'humain en général, bon, jamais de la vie. Donc, il y a au nom de la psychanalyse, dans une position de surplomb, effectivement, des discours sur notamment la sexualité qui sont tenus. Et moi, si vous voulez, je me démarquerais de ça. J'en opère effectivement une critique, et une critique qui, je dirais, pour moi, n'est pas une critique externe, c'est-à-dire du point de vue d'un extérieur de la psychanalyse, qui serait par exemple, je ne sais pas moi, la philosophie ou la sociologie ou une autre discipline de ce genre, mais je dirais une critique interne liée à la fois à l'exercice de la psychanalyse, à la pratique analytique, à cette expérience-là, et aussi à la manière dont elle essaye de se penser avec un certain nombre d'impasses, disons, je vais juste pour l'instant, enfin, dans ce que je vais développer aujourd'hui, parler de certains textes de Freud, et puis de certains aspects, disons, de Lacan, de certains propos de Lacan sur toutes ces questions-là. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Je reviendrai d'ailleurs à une des questions qui a été posée tout à l'heure sur la simulation, je laisse de côté, et sur l'hystérie. Alors, quand je dis l'expérience psychanalytique, évidemment, je parle en tant qu'analyste, écoutant des analysants, bien entendu, mais l'autre face, l'autre versant de cette expérience, c'est que tout analyste a aussi, dans son propre parcours, la position d'analysant. C'est-à-dire qu'en aucun cas, les places, si vous voulez, de l'analyste et de l'analysant, si dissymétriques soient-elles dans le temps, l'ici et maintenant d'une séance de psychanalyse et dans une cure, puisqu'il y a quelqu'un qui écoute et quelqu'un qui est là pour dire un certain nombre de choses. Celui qui écoute, d'ailleurs, n'est pas muet, hein, il parle aussi. Mais en aucun cas, ces positions ne sont des positions qui n'ont rien à voir, puisque elles sont ce qui les réunit, finalement. C'est la commune expérience, au fond, de la dimension inconsciente de nos pratiques, de nos identités, entre guillemets. Je dis guillemets parce que le concept d'identité n'est pas un concept psychanalytique. Hein. Le concept psychanalytique, c'est le concept d'identification. Et l'identification, c'est un processus d'ailleurs jamais total. C'est jamais quelque chose on ne s'identifie pas en bloc à quelque chose. Hein. C'est toujours un processus partiel et qui est un processus qui est effectivement animé par ce que la psychanalyse appelle le sexuel. Alors, donc, Je laisse ça de côté pour l'instant, mais simplement quand je dis expérience, c'est une expérience des deux bords, si vous voulez. Des deux bords du divan et du fauteuil, ou des deux fauteuils face à face, puisque bien entendu, il peut y avoir des analyses en face à face. Donc, quand je dis aussi à partir de l'expérience, c'est pas au nom de l'expérience. C'est-à-dire que c'est à partir de cette zone-là qui s'effectue à la faveur d'un certain dispositif qu'il m'importe d'expliciter aussi, évidemment, que je vais aussi rayonner ailleurs, que je peux être alimentée par toute autre chose. Par exemple, ce film dont je vous parlais tout à l'heure, ce que j'ai écouté aussi plus tard, juste dans l'exposé de Fabrice Virgili. Et c'est quelque chose qui est d'ailleurs... c'est pas qu'il y aurait un dedans et un dehors, hein, c'est qu'il n'y a que du dehors, d'une certaine manière, dans l'analyse. Il n'y a que du dehors, je pense à cette texte de Foucault qui s'appelle « La pensée du dehors », d'une certaine manière, dans le champ clos, dans le huis clos du colloque analytique, qui est effectivement intime, d'une certaine manière, eh bien, il me semble que ce à quoi on a accès d'une manière dégagée, on va dire, de quelque chose qui nous prend dans la vie ordinaire, à savoir qu'il faut qu'on fasse ceci, qu'il faut qu'on fasse cela, qu'on doit être comme ceci ou qu'on doit être comme cela, qu'on doit répondre à telle ou telle attente, ce qui est suspendu dans l'analyse. Et c'est ça le sens de la neutralité de l'analyste. La neutralité de l'analyste, ça n'est pas une façon de mettre une cuirasse. C'est une façon de neutraliser, justement, disons, les rôles et les assignations qui nous requièrent dans le champ social de nos pratiques ordinaires. Donc pendant ce temps qui est tout à fait artificiel, c'est-à-dire c'est un dispositif, la cure analytique, quelque chose est suspendu, ce qui permet effectivement aux paroles dites et entendues d'une certaine manière d'entrer en relation avec non pas leur orientation qui est que ça sert à dire ceci ou ça sert à dire cela, à communiquer, à briller, à tenir un discours qui sera parfaitement compris, etc. Tout ça est mis en suspens. Et ce qui apparaît à ce moment-là, c'est la façon dont, dans la parole d'un analysant, un certain nombre de représentations inconscientes, à l'œuvre dans les mots qu'il emploie, dans le discours qu'il tient, vont émerger. Et où on va apparaître, ce qui va apparaître, c'est ce qui le tient. C'est ce qui le tient. Au fond, pourquoi quelqu'un vient-il voir un psychanalyste ? Bien, je crois que c'est pour une raison en général très paradoxale, qui est que la psychanalyse, c'est une méthode de traitement de la souffrance psychique. C'est d'abord ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette méthode qui est articulée à une règle fondamentale, c'est la seule règle de l'analyse, je ne parle pas du cadre, c'est-à-dire le temps des séances, etc. Je parle juste de la règle qui permet au dispositif, à l'intérieur d'une séance, de fonctionner. C'est une règle très simple et qui est une règle qui définit l'analyse comme talking cure, cure en parlant. Alors, c'est à prendre très au sérieux, cette histoire cure en parlant. Parce que qu'est-ce qui se joue pour un être humain quand il parle et quand il s'adresse à un autre ? Donc, cure en parlant, la règle fondamentale, c'est juste, dites ce qui vous vient à l'esprit. Laissez les idées incidentes émerger dans la parole sans les censurer. Enfin, c'est une règle asymptotique, évidemment. Évidemment, forcément, ça n'est jamais à 100% réalisé. Mais la question n'est pas que ce soit réalisé. La question, c'est que ce soit la règle d'un dispositif. Mais il y a un autre versant indissociable de cette règle. C'est ce que Freud appelait l'attention également flottante, qui veut dire que ce qui est suspendu, c'est le jugement, c'est la recherche d'intention chez celui qui parle, et essayer au maximum de mettre de côté ce qu'on considère être, par exemple, le bien du patient, c'est-à-dire mettre de côté toutes les représentations de but, pour que ce qu'on entend puisse être entendu, pas seulement dans la visée consciente, mais dans les mouvements inconscients par lesquels ces visées conscientes sont produites. Donc c'est juste une règle comme ça, et l'autre règle, c'est celle que j'évoquais en commençant, c'est-à-dire l'analyse de l'analyste. C'est-à-dire que ils connaissent, c'est pas seulement qu'ils connaissent, c'est qu'ils soient, traversés, on pourra dire, par cette expérience. D'ailleurs, je dis traversés, et c'est pour ça que j'étais si sensible à l'exposé de l'historien, là, parce que ce qui me paraît de plus en plus frappant dans la cure analytique, c'est la manière dont chaque intimité est traversée d'une manière absolument, singulière, et c'est ça qui est très impressionnant, hein, par le collectif, par tous les aspects du collectif. Alors, ça peut être ce qui se joue en temps de guerre, et je dois dire que j'étais assez intéressée d'entendre que c'est vrai qu'en temps de guerre, en temps de crise, eh bien, il y a des possibles qui s'ouvrent. Il y a des possibles qui s'ouvrent. Et bien sûr que le symptôme qui conduit à une analyse, quelqu'un à aller voir un analyste, c'est une crise. Mais la crise, qu'est-ce que c'est? C'est juste quelque chose qui fait souffrir, qui met, fissure les évidences que l'on pense nous constituer. Et la crise, il ne s'agit pas de la juguler, il s'agit au contraire de faire droit au possible qu'elle ouvre. Alors j'étais intéressée par ça parce qu'il y avait donc 300 conductrices, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même des conductrices, et peut-être qu'on ne disait pas c'est bien pour une femme, elles étaient conductrices, c'est tout juste. Hein. Et là récemment, il y a quelques mois, je lisais dans le quatrième de couverture, on n'est pas en temps de guerre, hein, d'un livre quand même de Judith Butler. Eh bien, la phrase suivante, et on voit bien que quand on n'est pas en temps vraiment de crise, peut-être qu'il y a un impensé énorme qui ressurgit et qui montre qu'on a bien du travail, hein, eh bien que, on disait que ce livre, c'était la vie psychique du pouvoir, que ce livre était si remarquable, si ceci, si cela, etc., et que l'auteur en soit une femme américaine de surcroît, rend ce travail d'autant plus remarquable. Sans commentaire. Bon. Donc, il me semble que la psychanalyse, c'est une pratique traversée, parce que ça a beau être quelque chose qui se joue entre deux personnes, n'empêche qu'effectivement, c'est traversé tout simplement parce que on ne parle pas dans une langue, dans une novlangue en psychanalyse. On parle avec les mots de la langue ordinaire. Alors, je vous concède tout à fait que, très souvent, le discours psychanalytique, notamment à la suite de Lacan, pour beaucoup de raisons qui sont liées à la culture française, hein, ça, on ne va pas épiloguer là-dessus, ce n'est pas le lieu, est un discours extrêmement excluant et extrêmement alambiqué, ce qui fait qu'on ne comprend pas toujours ce dont il s'agit. C'est-à-dire très compliqué. C'est lié à une sorte de fascination pour la philosophie, je pense, dans les années 50, entre autres, mais le heideggerianisme du vocabulaire de Lacan en témoigne, et puis aussi, je pense, une façon d'essayer de mimer l'inconscient, peut-être pour le contrôler, et évidemment aussi un dispositif de pouvoir qui exclut et qui fait qu'entre initiés, on se comprend. Sauf que, en tout cas, chez Freud, on n'a jamais ça. On n'a jamais ça. Par contre, on a une difficulté dans les textes de Freud, c'est leur... la façon dont ils affrontent sans beaucoup d'état d'âme les contradictions. Sans beaucoup d'état d'âme les contradictions. Et au début de l'interprétation des rêves, Freud revendique très tranquillement, alors qu'il se targue toujours d'être un scientifique, hein, le droit à l'inconséquence. Féminine peut-être. Hein. Alors, donc, expérience psychanalytique, c'est déjà une expérience de parole. Et bien entendu que tout ce qui touche aux questions liées à la sexualité, aux catégories de genre, et alors sur un autre plan, à ce que la psychanalyse appelle le sexuel, me semble-t-il, ont à voir avec ça. Alors, je ne vais pas reprendre, je vais l'expliciter un peu à partir du titre du colloque qui m'a vraiment intéressée parce que c'était homme-femme, si j'ai bien compris, hein, genre et sexualité, c'est ça ? Des hommes, des femmes, genre au singulier et sexualité au pluriel. Alors, il me semble que là, on avait des niveaux de langue et des niveaux d'usage du langage extrêmement différents. C'est-à-dire, si moi, quelqu'un, dans une séance, ou moi, quand je parle quotidiennement, je dis un homme, une femme, ou bien genre, le genre, si je ne pense pas à mon école primaire où j'apprenais le genre grammatical, hein, et puis dans une autre langue qui a été aussi mon autre langue maternelle, il y avait aussi un genre neutre. Hein. Mais bon... Le genre, c'est déjà un niveau de registre plus savant, surtout qu'il est là constitué comme, effectivement, objet de recherche. Et sexualité, alors au pluriel en plus, évidemment que ça renvoie à la question des, à la fois, il me semble, des choix d'objets sexuels, homosexualité, hétérosexualité, et puis à la question des, entre guillemets, identités sexuées. Bon, puisqu'il y aura quelque chose sur le trans ce soir, hein, et la question de cette, et je pense évidemment à ce texte de Foucault, avons-nous vraiment besoin d'un vrai sexe? Alors en cela, il me semble que déjà cet intitulé montre que nous sommes complètement pris, et je ne le déplorerai pas, hein, comme Éric Fassin, mais dans ce que Foucault appelait le dispositif de sexualité, Et qu'est-ce que Foucault appelait le dispositif de sexualité? Et je voudrais dire que, au fond, la psychanalyse est certainement un produit ou un effet du dispositif de sexualité, mais qu'évidemment, elle constitue elle aussi ses dispositifs, hein, mais que comme tout dispositif, comme le dit bien Foucault, ça produit des effets. Alors, qu'est-ce que Foucault appelle un dispositif? Alors, quand le dispositif de sexualité, c'est quoi? C'est, Foucault le définit, hein, dans l'introduction à la volonté de savoir, comme cet immense appareil à produire autour du sexe, quitte à la masquer au dernier moment, dit-il, la vérité. C'est-à-dire des discours de vérité, mais qu'il ne faut, dont il ne faut jamais, il faut jamais séparer cette définition du dispositif de, évidemment, la préoccupation foucaldienne constante qui est celle de la critique, de l'attitude critique. Et dans Qu'est-ce que la critique, il dit, au fond, qu'est-ce que c'est la critique? C'est comment ne pas être tellement gouverné. Comment ne pas être tellement gouverné? Et au fond, il définit la critique comme un questionnement de la vérité sur ses effets de pouvoir. Alors, par exemple, de telle théorie de la sexualité, mettons l'envie de pénis, par exemple, sur ses effets de pouvoir, et le pouvoir sur ses discours de vérité, c'est-à-dire sur les discours qu'il produit et qui sont supposés produire un effet de vérité. Donc, nous sommes complètement dans un espace de discours et de langage, et évidemment de pratique, les deux étant entremêlés. Donc je crois que dans ce colloque, on est pris dans le dispositif de sexualité, mais quand Foucault définit non pas juste le dispositif de sexualité, mais les dispositifs, hein, dans un texte très intéressant, qui s'appelle un entretien qui s'appelle Le jeu de Michel Foucault dans les 10 et écrits, numéro 3, il définit le dispositif au fond comme quelque chose qui vise à répondre à une urgence à un certain moment, et qui n'est pas intentionnel, qui est un ensemble hétérogène de pratiques, de discours, de représentations, etc., mais qui, en même temps, produit des effets imprévus. Bon. Donc, voilà. Je crois que là, on est dans le dispositif de sexualité, quand on est dans ce colloque-là, et en ce qui concerne la psychanalyse comme effet ou produit du dispositif de sexualité, certainement. Certainement, puisque, au fond, c'est vrai, que l'étiologie des névroses, et ça c'est une tradition, enfin je veux dire, c'est pas Freud qui invente, enfin qui produit cet énoncé ex nihilo, c'est quelque chose qui est dans le discours sexologique en effet du 19e siècle, puis qui se modifie un peu avec Charcot et la question de l'hystérie, c'est pour ça que je reviendrai sur cette histoire de la simulation. Au fond, l'étiologie, on parle de l'étiologie sexuelle des névroses, c'est-à-dire que la question du malaise, on va dire, de la souffrance psychique, est référée à une étiologie qui a à voir avec la question de la sexualité. Alors, la question de la sexualité entend effectivement quel est l'effet ou le fruit d'un dispositif, même si Freud n'emploie évidemment pas ce terme, hein, et en quoi, en cela, évidemment, que la psychanalyse, hein, se préoccupe de cette question-là. Et Freud arrive chez Charcot à la Salpêtrière. Vous connaissez les fameuses scènes, Charcot qui montre les hystériques à la Salpêtrière, qui parle de l'étiologie sexuelle de l'hystérie. Seulement, l'hystérie qui est d'abord pas, même si le terme hystérie vient d'utérus, comme chacun sait, n'empêche que la grande stupéfaction de Charcot, c'est qu'il y a une hystérie masculine. Il y a une hystérie masculine. Et maintenant, qu'est-ce que c'est l'hystérie? Est-ce que c'est l'utérus qui se balade? Ou est-ce, parce que c'était ça l'idée aristotélicienne, est-ce que c'est l'utérus qui se promène? Et donc les hommes auraient un utérus baladeur assez difficile à assigner dans leur corps? Ou est-ce que c'est autre chose qui se promène? Dans les études sur l'hystérie, je vais répondre tout de suite, enfin moi, pas moi, par l'intermédiaire de Freud, répondre à cette question. Dans les études sur l'hystérie, il y a un cas qui est le cas Elisabeth, qui est tout à fait fascinant. À l'époque où Freud n'avait pas encore, à l'aide de ses patients et patienteux, inventé, imaginé, bricolé, on pourrait dire, c'est un bricolage, hein, le dispositif de la cure, où l'analyste est censé ne pas trop parler, et l'analysant dire ce qu'il entend. Vous connaissez la légende, comme toutes les légendes, c'est une légende, hein, c'est-à-dire en même temps, elle dit une vérité, hein, c'est Anao, je crois, qui disait à Freud, mais taisez-vous, vous parlez tout le temps, laissez-moi parler. Donc, il n'est pas encore là, il est encore à une sorte de frontière entre la méthode cathartique qui par la suggestion voulait expulser les représentations qui étaient agissantes dans le corps de la patiente ou du patient, parce que voilà, c'est ça le point, c'est que c'est pas l'utérus qui se balade, ce sont des représentations. C'est-à-dire des représentations, ce que plus tard Lacan appellera des signifiants. Et qu'est-ce que c'est un signifiant au sens psychanalytique ? Eh bien, évidemment, c'est une articulation, mais plutôt comme un iceberg. C'est-à-dire qu'il y a une partie émergée que nous voyons, qui est celle de notre usage commun, c'est des mots, si vous voulez, mais il y a une partie émergée qui est extrêmement agissante, une partie immergée, je veux dire, qui est extrêmement agissante, qui est bien plus importante, et qui est effectivement la manière dont ce signifiant s'est articulé à même le corps et le psychisme d'un sujet. Alors, dans le cas Elisabeth, justement, il y a une patiente qui a mal aux jambes, et Freud, à l'époque, touchait encore les patients. Donc, il a les mains qui se pose sur les jambes de la patiente. Et il y a cette phrase tout à fait, on pourrait penser que c'est une phrase délirante, hein, où Freud dit au fond, les gens, à un certain moment, les jambes douloureuses se mirent à parler. Et qu'est-ce que c'est que ces jambes qui parlent ? Ben, c'est justement cette histoire de corps hystérique. Parce que le corps hystérique, c'est pas, et le proton pseudos hystérique, comme dit Freud, c'est pas une simulation, c'est pas non plus un utérus qui se promène, c'est une mise en sens non consciente, non décidée, hein, qui articule, c'est une représentation inconsciente, c'est une mise en sens inconsciente qui nous tient et à laquelle nous adhérons. Donc un symptôme, si vous voulez, c'est au fond la façon, c'est l'expression d'un conflit entre justement la façon dont des représentations inconscientes nous tiennent et la manière dont elles ne nous conviennent pas. Et je crois que quelqu'un qui vient voir un analyste, je disais tout à l'heure qu'il venait pour une raison paradoxale, il vient parce que, d'une certaine façon, c'est pas tellement qu'il ne consent pas aux représentations inconscientes qui le tiennent, c'est qu'il y consent trop. Et ce consentement insu, inconscient, justement, eh bien, la tâche de l'analyse, c'est de parvenir à, effectivement, eh bien, le remettre en mouvement pour que la mise en crise de ce consentement dans le symptôme, eh bien, puisse trouver une résolution qui n'est pas le juguler la crise, mais qui est de trouver une autre possibilité de destin, si vous voulez, pour cette représentation inconsciente. Alors, je viens de prononcer le mot de destin. Tout à l'heure, on a parlé de la sexologie, de l'anatomie du corps. Effectivement, la sexualité pour la psychanalyse, en ce sens, ce n'est pas une affaire d'organes et ce n'est pas non plus une affaire d'anatomie. Je sais bien que Freud reprend la phrase de Napoléon, l'anatomie c'est le destin, mais en quel sens ? Au sens évidemment de la névrose de destinée, puisque qu'est-ce que c'est le destin au sens freudien ? C'est pas du tout quelque chose qui est inscrit dans le ciel ou dans la nature ou dans le corps, hein, au sens d'un corps naturel, c'est ce qui fait que nous adhérons à un certain nombre de représentations. Alors, c'est là que nous retrouvons la question du sexuel, qui n'est pas le sexué, et la question homme-femme, et la question des sexualités. Qu'est-ce que c'est le sexuel ? Eh bien, en quoi ça ne procède pas du sexué, c'est-à-dire ni du genre directement, ni de l'anatomie ? Eh bien, le sexuel, c'est juste la disposition d'un corps, d'un psychisme, d'un individu, à être en quelque sorte excité, à être, c'est une aptitude au plaisir ou au déplaisir dans le lien à l'autre. Le sexuel, c'est ça. C'est d'une certaine façon quelque chose qui est le tissu, la texture de notre lien initial à l'autre et au monde. C'est quelque chose que la psychanalyse appelle le sexuel, c'est-à-dire c'est quelque chose qui alimente le mouvement le mouvement libidinal, le mouvement du désir, le mouvement du lien à l'autre. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui procède de l'anatomie ou du genre, même si ça passe par ça, parce que la manière dont un adulte s'adresse à un enfant qui par hasard appartient à tel sexe anatomique, et qui est porteur de telles représentations de genre, eh bien, est évidemment infiltré par tout cela. C'est-à-dire que, si vous voulez, le sexuel, c'est juste... Alors, on a parlé aussi tout à l'heure de la disposition sexuelle infantile polymorphe. L'infantile, au sens freudien, c'est pas quelque chose, ça ne veut pas dire l'immature. Ça veut dire juste quelque chose qui a à voir avec cette zone-là de notre, et qui est toujours agissante de notre vie psychique, si vous voulez, et qui est cette disposition, cette aptitude à être en quelque sorte hors de soi tout le temps. C'est-à-dire à être dans un lien érotisé avec un autre, un objet. Et en cela, tout le corps est zone érogène. Et le corps hystérique, c'est justement ce corps qui est le corps érogène, le corps apte à être excité, à entrer en lien avec l'autre. Les zones, comment dire, marquées par la différence anatomique, étant investies d'une certaine manière dans le lien sexualisé d'un adulte à un enfant. Donc, c'est un peu entremêlé, si vous voulez. Mais ce qu'on peut dire, pour être assez clair là-dessus, c'est que le sexué procède du sexuel, et non pas l'inverse. Et le sexué, non pas au sens... Alors, le sexué, donc les catégories de genre. Donc, les catégories de genre, ce qui fait que quelqu'un va se sentir, comme on disait tout à l'heure, homme ou... Alors, avec tous les... Homme ou femme. Or, comment est-ce que quelqu'un va se sentir homme ou femme, et comment va se déterminer le choix d'objet hétéro, sexuel ou homosexuel ou bisexuel? Alors, sur cette question du genre, pour commencer, eh bien, c'est quand même assez intéressant de s'apercevoir que les termes de masculin... Alors donc, oui, tout à l'heure, je disais, l'infantile, c'est pas l'immature. Toute forme de sexualité, hétérosexuelle ou homosexuelle, comprend des points de fixation à cet infantile, et heureusement. Ça veut dire que la sexualité est sexualisée, c'est-à-dire traversée par, effectivement, une dimension libidinale qui excède, d'une certaine manière, le choix sexué et l'identité sexuée. Alors, reprenons cette question du genre, et après on viendra à la question des sexualités. En retravaillant sur un certain nombre de textes de Freud sur lesquels j'avais travaillé quand j'écrivais Le sexe prescrit, je suis retombée sur deux textes que j'avais lus, évidemment, mais je n'avais pas perçu tout l'intérêt de ces textes par rapport justement à l'articulation de la, j'ai pas envie de dire théorie, disons théorisation psychanalytique, en n'oubliant pas que pour Freud, théorisation et fantasmatisation, d'une certaine manière, ça ne fait qu'un. À un certain moment, il dit il nous faut appeler la sorcière à l'aide, dit-il, la sorcière métapsychologie. Alors, il fait allusion à la scène de la cuisine de la sorcière dans Faust de Goethe. La métapsychologie, c'est l'appareil théorique de la psychanalyse, pulsion, destin des pulsions, le refoulement, etc. Et il dira, comme d'habitude, ces informations ne sont ni très claires ni très détaillées. Sans théorisation, j'allais dire sans fantasmatisation, impossible d'avancer d'un pas. Ce qui enracine l'activité théorique de la psychanalyse, non pas dans, comment dire, quelque chose qui serait pur de tout lien à, je dirais, l'obscurité de tout ce qui nous initie, mais qui le met du côté de ce que Freud appelle, qui fait de ça des mêmes, quelque chose de même nature que les théories sexuelles infantiles. Puisque les théories sexuelles infantiles, c'est-à-dire les théories par lesquelles un enfant devant la perplexe devant le fameux ladies là, eh bien trouve une bricole, une explication, eh bien sont, comme dit Freud, des produits de l'urgence de la vie. C'est-à-dire il faut faire taire cette perplexité qui est un peu angoissante. Donc une théorie est bricolée. Parmi ces théories, il y a la théorie de la différence des sexes liée à la femme castrée et à l'envie de pénis, qui est une théorie qui aura beaucoup de... qui est une théorie sexuelle infantile, c'est explicitement indiqué par Freud dans le texte sur les théories sexuelles infantiles. Et cette théorie sexuelle infantile aura évidemment un destin important dans la théorie psychanalytique officielle, pour des raisons qui sont liées, on va dire, à des questions de relations de pouvoir, qui renvoient au monde social, si vous voulez. Mais c'est pas si c'est quand même des théories sexuelles infantiles, c'est-à-dire qu'il peut évidemment y en avoir d'autres, c'est pratique. Et si on sort de Freud et qu'on va, par exemple, chez Marie Douglas, je ne sais pas si vous connaissez le livre de Marie Douglas qui s'appelle « De la souillure », à un moment donné, elle dit bien qu'on a exagéré la différence masculin-féminin, etc., pour des raisons pratique, et que évidemment que c'est pas si simple, et que s'il y a un étudiant qui lui faisait remarquer quand elle disait mais tout ça c'est quand même que des simplifications, mais vous allez transformer notre monde en une sorte de jelly. Donc c'est que pour que le monde soit bien stable, etc., on simplifie. Alors voilà ce que dit Freud. Il est indispensable de se rendre compte que les concepts de masculin et de féminin, dont le contenu paraît si peu équivoque à l'opinion commune, font partie des notions les plus confuses du domaine scientifique. Premier texte. Deuxième texte. Quant à l'essence de ce que, au sens conventionnel ou biologique, on nomme masculin ou féminin, la psychanalyse ne peut l'élucider. Elle reprend à son compte ses concepts et les met à la base de ses travaux. C'est quand même intéressant. Hein, c'est quand même intéressant parce que les maîtres... Alors ça, c'est dans un psychogénèse d'un cas d'homosexualité féminine, ce texte, et l'autre, c'est dans les trois essais sur la théorie sexuelle. C'est intéressant parce qu'effectivement, il ne nous dit pas que sous prétexte que ce sont des notions confuses ou peu équivoques, on les jette, mais il ne dit pas non plus qu'on va les élucider et qu'on va les nettoyer. Il dit on les prend telles quelles, c'est-à-dire telles qu'elles sont en quelque sorte avalées par tout un chacun dans la langue ordinaire. C'est des mots de la langue ordinaire, finalement. Et puis, on fait avec. Mais faire avec, ça ne veut pas dire construire un édifice, ou tout au moins si on construit un édifice, il va être fissuré à la base. Sauf que le fait que ce soit fissuré à la base, c'est précisément ça qui a trait à ce qu'on appelle le sexuel en psychanalyse. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que ces mots sont peu équivoques à l'opinion commune ? Pour des raisons qui sont celles qu'a développées, par exemple, le second Wittgenstein dans sa philosophie du langage, ou Austin dans un texte qui s'appelle, par exemple, Plaidoyer sur les excuses, où il réfléchit aux mots de la langue ordinaire et à l'usage que nous en faisons. Et il dit bien, en fait, que les mots de la langue ordinaire sont, en quelque sorte, nos premiers mots, sont chargés d'erreurs, de fantasmes, de tout ça, mais que nous n'avons que. Et que, évidemment, que nous devons nous employer sans cesse à les re-questionner. Mais on ne peut pas faire comme si on pouvait trouver des mots qui seraient enfin purs de l'usage que les humains en ont entre eux. Et comme dit Wittgenstein, apprendre un langage, et faisant partie de ces mots les plus basiques de l'usage de la langue ordinaire, il y a homme-femme, apprendre un langage, c'est apprendre une forme de vie. Sauf que, évidemment, comme ces mots sont ambigus, puisqu'il n'y a pas de garantie extérieure à ce qu'ils disent qui en garantirait la validité. C'est pas comme ce que quand Françoise Héritier, par exemple, elle pense que l'enfant observe la différence des sexes. Et puis voilà. Du coup, que c'est ça la base de la pensée. Comme si on observait la différence des sexes. Non, on observe le divers, la bizarrerie de la sexuation, et puis quand on voit tout ça, on voit à la fois qu'il y a des dissemblances, mais aussi des ressemblances. Et que, par exemple, des objets sexuellement érotisés, les fesses, par exemple, ne sont absolument pas différents chez les hommes et chez les femmes. Donc les enfants, qu'est-ce qu'ils font avec tout ça ? Ils bricolent, et c'est vrai que c'est un bricolage pratique et évidemment porté par l'ensemble de nos catégories de genre, que la différence, elle est du côté... Il y en a un qui a le pénis et l'autre qui est castré. C'est simple, mais il y a toutes sortes d'autres versions possibles. Par exemple, en termes de voisinage des sexes, c'est ce que je développais dans le sexe prescrit, je ne vais pas le faire ici. Donc, la question pourquoi est-ce que la question du sexuel et du sexué se noue sur ces termes-là ? Parce que ce qui fait qu'on adhère, mais qu'on adhère d'une façon troublée, initialement troublée, au contenu peu équivoque dont sont porteurs ces termes, c'est justement qu'ils nous sont transmis, comme dit Freud, par les personnes aimées de l'enfance. Qu'ils nous sont transmis d'une telle façon qu'ils nous donnent notre passé. Je trouvais que tout à l'heure, c'était très émouvant ce qui était dit sur ce garçon, le type qui était la risée de son régiment, parce que, effectivement, ça, c'est des choses qui sont très liées à l'enfance aussi, ça. Il était la risée parce qu'il était finalement, il réussissait pas à être un homme adulte en plus. Adulte. Mais on voit bien comment, et c'est très, on voit tout ça, toute la littérature de Conrad est là-dessus, le paria, c'est-à-dire celui qui est hors des liens humains. Autrement dit, pour pouvoir avoir une place dans les liens humains, d'une certaine manière, on avale les signifiants, et à commencer par les signifiants de la sexuation. Sauf qu'on les avale évidemment de travers, souvent, D'autant plus qu'ils sont, souvent pleins d'ambiguïté. Par exemple, je cite dans mon livre un exemple où un adulte disait à une petite fille « Ta mère, c'est un monsieur », qui était évidemment dans la bouche du grand-père un compliment extraordinaire. Seulement, la petite fille était logique, elle réfléchissait, et elle s'était dit « Mais tiens, est-ce qu'il pourrait dire ton père, c'est une dame ?» Et elle avait conclu que non, certainement pas. Mais en tout cas, donc tout ça montrait bien la valence différentielle des sexes, mais en tout cas, c'est sûr que ça séparait la catégorie de genre de la catégorie anatomique. Mais quelque chose d'inconscient a été véhiculé, et ce qui a été véhiculé dans le message, enfin inconsciemment à l'enfant en question, c'était que sur cette question masculin-féminin, c'est flou, et qu'on peut peut-être retraduire tous ces signifiants. Et je crois que la psychanalyse est une opération de retraduction. Et c'est pour ça que la question justement des sexualités, si on la relie à ça, n'est pas si fermée dans le champ freudien, en tout cas, qu'on a bien voulu le penser, qu'on veut bien nous le dire en général, que ce soit dans la vulgate psy du côté des analystes, je conclue là-dessus, ou dans la vulgate psy ordinaire. Puisque Freud dit bien que, au fond, le choix d'objet, il dit la chose suivante, il dit que l'attraction de l'homme pour la femme est aussi pour la psychanalyse un problème et n'a rien à voir avec une attraction chimique naturelle. Il dit que c'est aussi un problème comme l'attraction pour l'objet du même sexe. Un problème, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, qu'il faut le traiter, ça veut dire qu'il faut le comprendre. Et que l'attraction pour un objet sexuel est une attraction qui n'a rien à voir avec, d'une certaine façon, quelque chose qui serait de la nature ou la contre-nature, mais avec effectivement le fait de trouver dans l'objet désiré ou aimé quelque chose qui, d'une certaine manière, rencontre justement des fixations archaïques que la situation d'amour ou de désir va réitérer, renouveler et emmener ailleurs. Et c'est très intéressant dans le texte que je citais tout à l'heure, enfin dont j'ai extrait une citation sur le psychogénèse d'un cas d'homosexualité féminine, où on voit bien que la jeune fille trouve, c'est l'histoire d'une jeune fille qui aime une femme plus âgée, et que la jeune fille satisfait dans le choix de cet objet d'amour à la fois son penchant hétérosexuel et son penchant homosexuel, parce qu'il y a dans la femme aimée des traits qui identifient cette femme à certains traits du père ou du frère, notamment il y a le frère de la jeune fille, et d'autres à des figures féminines. C'est-à-dire qu'un objet d'amour est porteur d'un certain nombre de traits qui ont été à un certain moment porteurs de sens pour un sujet, et qui, au fond, qu'il réinvestit en l'emmenant ailleurs. C'est pour ça que la situation d'une certaine façon, la situation d'amour remet, comme le dit Beckett, dans une situation où on n'est plus soi-même, puisque c'est dans Premier Amour, Beckett dit ça, c'est très joli, il dit que c'est horrible d'aimer, enfin, l'amour, parce que on n'est plus soi-même dans l'amour, et que du coup, on ne sait plus quoi faire pour s'en tirer, parce que tant qu'on l'est soi-même, on sait quoi faire pour l'être un peu moins. Tandis que quand on ne le sait plus, pas moyen de trouver une solution. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est retraduire. Donc la question, au fond, et sur la question des choix d'objets sexuels, Freud dit aussi que la libido hésite normalement toute la vie entre l'objet masculin et l'objet féminin, quel que soit le choix officiel que l'on pense être le sien, c'est-à-dire on pense qu'on est hétérosexuel ou on pense qu'on est homosexuel. Et il dit bien que d'ailleurs, le problème en question de l'hétérosexualité ou de l'homosexualité, c'est lié à ce qu'il appelle la restriction du choix d'objet. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que dans le parcours d'un sujet, le choix d'objet s'est restreint ? C'est restreint, donc la restriction. Et au fond, ce qu'on peut penser, c'est que dans le meilleur des cas, qu'il s'agisse d'un choix d'objet, quelle que soit la restriction du choix d'objet, qu'il s'agisse d'un choix homosexuel ou hétérosexuel, la rencontre amoureuse et érotique peut dépasser cette restriction par le fait qu'on retrouvera dans l'objet des traits qui n'ont rien à voir, d'une certaine manière, avec juste sa détermination sexuée, mais avec le fait qu'il peut incarner aussi d'autres zones sexuées, de la question de la sexuation. Donc voilà, je voulais juste rappeler un petit peu ces choses, et c'est pour ça que justement, juste sur la question de la simulation, la simulation, c'est un terme un peu gênant parce qu'il nous renvoie tout de suite à l'idée de mensonge et de faire semblant, alors qu'en fait, il n'y a d'une certaine manière que de la simulation au sens où toute production signifiante, que ce soit dans un corps, que ce soit dans la représentation de soi-même ou quoi, est un bricolage fictionnel qui, en tout cas quelque chose qui fait sens. C'est-à-dire c'est de l'ordre, cette simulation, plutôt de la fiction initiale, mais il n'y a rien qui soit originaire, qui ne soit pas de, cette, de l'ordre de la fiction, sauf qu'on peut passer à une autre fiction. On peut retraduire tout ça. Voilà, donc je ne pense pas que le terme de simulation, enfin de toute façon Freud ne l'emploie pas, hein, et que le corps hystérique, il est effectivement un corps fictionnel d'une certaine manière, en tant qu'il est le théâtre du jeu des signifiants, c'est-à-dire de la manière dont le lien, les liens initiaux qui nous ont amenés dans le, la communauté des autres humains nous ont érotiquement façonnés. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette érotisation, d'une certaine manière, on est hors champ. Maintenant, évidemment, quel problème ça pose après? Et c'est pourquoi, et je conclurai là-dessus, je m'excuse, j'ai un tout petit peu débordé, une des choses que je me dis aujourd'hui et que je ne m'étais pas dite à l'époque où j'écrivais Le sexe prescrit, puisque ma préoccupation, c'était plutôt de, je dirais, de faire en quelque sorte, oui, j'étais fait une posture plus de Jeanne d'Arc, disons, c'est-à-dire de guerroyer un peu contre un certain dogmatisme qui était comme une mur de fer de la psychanalyse, je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait, évidemment, c'était masqué, puisque la psychanalyse parlait toujours, au nom de la psychanalyse, il y avait toujours un rappel à l'ordre sexuel. Et en même temps, je me demande dans quelle mesure ce qui nous arrive aujourd'hui, qui est tellement intéressant et qui demande à être pensé, et qui a trait non seulement à la possibilité légale de couple du même sexe, je pense pas seulement au Pax, mais évidemment à la possibilité de mariage entre deux personnes de même sexe, mais la parenté homosexuelle, il me semble que tout ça peut être aussi lu, évidemment pas seulement comme, mais aussi comme un effet de la psychanalyse, en tant que cette pratique, eh bien, elle a mis les pieds dans le plat d'une façon très puissante, je dirais, dans la question du langage ordinaire, et de nos retraductions des signifiants ordinaires, parce que ce qui se joue, ce qu'on rencontre toujours dans une séance d'analyse, c'est la manière dont un sujet, l'intimité d'un sujet, est à la fois le point de nouage de tout le collectif, mais en même temps le point d'insurrection possible de tout ce collectif. Et comme la psychanalyse a traversé beaucoup d'existences contemporaines depuis un siècle, que ce soit directement ou indirectement, et quelles que soient les idéologies des psychanalystes, malgré eux, si on parle comme on parle dans l'analyse, forcément, il y a des choses qui se mettent à vaciller, nécessairement. Évidemment, on peut les recouvrir après. Hein. Eh bien, forcément, comme par capillarité, il me semble. Il me semble que cette pratique-là a diffusé ses effets dans le corps social, dans l'histoire, et que ce que nous rencontrons aujourd'hui, mais c'est à l'œuvre dans le freudisme, dans la pratique analytique, mais en même temps, il y avait Musil, hein, l'homme sans qualité, toute cette question de l'indétermination et de l'amour entre Ulrich et Agathe, le frère et la sœur, où il dit bien d'Agathe qu'elle est comme un ami, mais qu'elle elle lui présentait devant les yeux, en fait, une femme dans tous les aspects de la féminité, à la fois de genre et érotisée, qu'elle en fut vraiment une, voilà une belle complication réaliste. Il dit ça à un certain moment. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et je terminerai juste en, par rapport à cette question nature-culture. Moi, j'ai lu récemment un livre que j'ai trouvé très riche de d'Escola, Jean d'Escola, par-delà nature, Philippe d'Escola, par-delà nature et culture. Et je trouve qu'il nous permet de prendre la question. Alors, il ne parle pas spécialement de la question du genre, mais je trouve qu'il nous donne des outils pour penser la question de notre rapport à la fois aux objets dits. Enfin, notre rapport à l'humain, qui nous permet de faire un détour par cette opposition, parce que est-ce qu'il s'agit vraiment de dénaturaliser la sexualité? Est-ce qu'elle n'a jamais été naturelle? Il y a eu des discours pour la naturaliser, mais qui sont évidemment liés à cette épistémée naturaliste dont Descola, Philippe Descola, nous montre comment nous pourrions peut-être faire un pas de côté par rapport à elle. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. On va peut-être passer aux questions. Comme tout à l'heure, on va en prendre deux ou trois. Et comme tout à l'heure, je vous demanderai de vous présenter, puisqu'on enregistre, je rappelle, le débat et les questions. Et on va changer les piles du micro. je peux prendre. Si, ça fonctionne. Ça fonctionne.
Si, comme je l'ai compris, alors, Blacher André, si, comme je l'ai compris, je suis en tant que sujet au sexe déterminé par l'objet que je choisis, comme cet objet est lui-même un objet sexué, quelle est la structure générale qui peut régir les influences réciproques de ces choix, que ce soit dans le passé comme détermination familiale, historique, dans le présent comme ma volonté, dans le futur comme idéal.
Est-ce qu'il y a une autre question ? Non ? Oui ? Ah, pardon, excusez-moi.
Oui, j'étais extrêmement intéressée par ce que vous avez dit et étonnée par le fait que le terme castration ne fasse pas partie du vocabulaire de théorisation que vous pourriez critiquer. Je me suis toujours demandé pourquoi, s'il y a eu castration, ça veut dire qu'on avait avant des pénis et qu'on ne les a plus, on nous les a coupés, qu'est-ce qui se passe? Et donc j'aimerais bien que vous développiez quelque chose. Oui, où sont nos pénis d'antan? Que vous développiez quelque chose sur ce terme et ce qu'il induit dans la remise à chacun à sa place, ça.
Oui, oui.
Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre.
Oui, évidemment.
J'ai oublié de me présenter pour la bande qui enregistre, Marie-Elisabeth Handmann.
Et peut-être une troisième question. Oui. Et on refait une série après.
Annie Bureau, je suis médecin. J'ai entendu le sexuel et la relation à l'autre. Alors, la masturbation, qui est une activité sexuelle très répandue, qu'est-ce qu'elle est là-dedans ?
Je vous laisse répondre et puis on va reprendre des questions.
Bon, alors je vais essayer, c'est un peu divers là comme question, mais je vais essayer de répondre brièvement. Hein. Alors sur la question, est-ce qu'on est, pour autant qu'on soit déterminé par l'objet, je ne suis pas sûre d'avoir compris tous les termes de la question, mais sur cette question de la détermination par l'objet, j'aimerais, d'abord, je pense qu'on pourrait parler plutôt de surdétermination que de détermination, c'est-à-dire que c'est jamais simple. Et du fait de cette surdétermination, je pense que cette surdétermination, elle nous met en fait en relation avec ce que j'ai appelé, j'ai fait une allusion très rapide, quelque chose qui aurait trait à l'indéterminé. Et c'est quoi l'indéterminé ? Je crois que c'est sous les différentes déterminations et sous la multi ou la surdétermination, je pense qu'on trouve une zone qui serait celle de l'indéterminé et qui est la zone, on va dire, de l'angoisse. C'est-à-dire que la détermination. Alors, je reliais cette question des déterminations à la question de ce que du terme, enfin, de l'usage psychanalytique du terme de signifiant, qui est un terme de Lacan, qu'il emprunte à la linguistique. Donc, le signifiant, je vous rappelle, au sens de Lacan, c'est évidemment l'ensemble des mots, mais c'est aussi ce qui, de façon, le signifiant inconscient. C'est la manière dont, en quelque sorte, les mots baignent dans un psychisme et sont infiltrés par toutes sortes d'éléments de ce psychisme. Alors, un signifiant, ce n'est pas seulement un signifiant verbal, ce n'est pas seulement un mot. C'est évidemment, ça peut être un geste, en tout cas, tout élément sensoriel, et le mot est d'abord un élément sensoriel, qu'il s'agit d'interpréter pour en faire quelque chose, pour ne pas être en quelque sorte explosé par l'effet qu'il produit. Alors, un signifiant comme un geste, par exemple, ça peut être une claque. Et je me souviens d'une jeune femme que j'ai vue dans un centre de consultation pendant longtemps, qui était une jeune femme qui avait été extrêmement maltraitée dans son enfance, hein, par ses parents, les deux parents, père et mère, mais vraiment violemment maltraités, quoi. C'est-à-dire des mauvais traitements, quoi, des claques, attachées au radiateur, brûlées au fer, enfin des trucs. Il y avait des cicatrices quand même. Et cette fille, ce qui était en même temps, il y avait un rapport d'amour de cette jeune fille avec les adultes, d'autant plus qu'elle était dans un huis clos. Bon, c'était une fille qui venait de Turquie et qui avait vécu très enfermée et dans un environnement, vraiment, je ne sais pas comment elle s'était retrouvée là où je la voyais, en fait. Et ce qui était assez impressionnant dans ce qu'elle disait de son expérience amoureuse, hein, c'est comment pour elle, elle n'arrivait pas à faire la distinction entre une claque et un baiser. C'est-à-dire le signifiant, porteur de violence physique, était en même temps insignifiant, parce que c'était une question de survie pour elle, quand elle les a subis, ces trucs-là. Insignifiant, investi par quelque chose de, disons, de l'ordre de l'amour, de l'ordre du soin, si paradoxalement que ça puisse paraître. Donc, vous voyez bien que les déterminations, hein, sont liées. Alors bon, donc, ça c'est pour les signifiants, pour vous faire juste apparaître qu'un signifiant, c'est pas seulement... une sensation, c'est pas seulement un geste, c'est pas seulement un mot, c'est la manière dont on interprète quelque chose qui nous arrive. Et évidemment, dans ce qui nous arrive, il y a le langage. Et vous imaginez bien ce que c'est, enfin, c'est difficile à imaginer, quelquefois, moi j'essaye de me l'imaginer, mais j'ai du mal. Hein. Qu'est-ce que c'est quand on arrive au monde, on sait pas parler, évidemment, et on est environné de ce bruit que sont les mots. Et c'est pas du tout, c'est bien plus compliqué que ce qui nous arriverait si on allait, je sais pas moi, mettons au fond de la Chine sans connaître un mot de chinois, où on essayerait en entendant ces sons complètement étrangers de les traduire dans ce que nous possédons déjà et qui est notre langue maternelle. Quand on arrive au monde, on n'a pas de langue maternelle. On n'a pas de langue maternelle, donc comment on arrive à apprendre à parler? C'est pour ça que Wittgenstein dit apprendre un langage, c'est apprendre une forme de vie. On apprend à parler parce qu'on s'identifie de façon très tâtonnante et très bricolante, effectivement aussi à ce qu'on pense être les attentes de l'autre, et puis par rapport à ses propres désirs. Moi, je vais vous raconter un souvenir très personnel, mais justement sur cette question des signifiants. Quand j'étais petite, j'avais demandé à ma mère une surprise. Et je voulais absolument une surprise. Et un soir, elle me dit, tiens, voilà, t'as une surprise. Et c'était une tête d'oreiller, sa surprise. Déception, parce que pour moi, une surprise, c'était un accordéon. Parce que j'avais une petite copine qui m'avait montré un accordéon magnifique dont on lui avait fait cadeau. Je lui ai dit, mais c'est quoi ça? Elle m'avait dit, c'était une surprise. Donc, vous voyez bien que le malentendu... Alors après, j'ai appris que... j'ai rien compris, évidemment. Évidemment, j'ai eu un effet de surprise, mais plutôt de déception. J'ai dû comprendre, j'aurais dû apprendre le mot déception à ce moment-là. Mais vous voyez bien que les mots, finalement, sont faits... Alors, pour moi, le mot surprise, maintenant je sais ce que ça veut dire, n'empêche que... Quand je l'entends, quelque part, très loin, il y a toujours quelque chose qui est lié au son de l'accordéon, sans doute. Bon. Comme pour tout le monde a des trucs comme ça dans son rapport. Donc dans l'entrée dans les signifiants. Donc vous voyez que les déterminations ou les surdéterminations sont liées à la manière singulière dont on est rentré, en se débrouillant comme on a pu, dans l'univers des autres humains. Quoi. Donc pourquoi on y entre? Précisément pour éviter... Mais en même temps, on garde ça dans une zone un peu précieuse pour pouvoir... C'est tout le plaisir de pouvoir mentir quand on est petit. Hein, et quand on est grand aussi, mais quand on est petit, c'est un des plus grands plaisirs qui soit, je pense. Hein. Ou de pouvoir aussi, vous avez dû faire ça aussi quand vous étiez petit, inventer des langages. Hein. Bon. Eh bien, disons que ça nous protège, et en même temps, ça nous met à la lisière de la zone de l'indéterminé. La zone de l'indéterminé qui est la zone où, évidemment, tout est possible. Et Lacan le dit très bien dans le séminaire sur l'angoisse. Il dit que tous les aiguillages sont possibles à partir de l'angoisse, c'est-à-dire de cette zone de l'indéterminé. Et en même temps, le monde des signifiants, c'est un monde où on peut toujours se tromper. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune garantie qu'on ne se trompe pas, sauf l'accord mutuel. Sauf qu'il n'y a pas de garantie à l'accord mutuel. Donc, voilà, il n'y a pas de métalangage, quoi. Donc, quant à la détermination, je pense que les situations de rencontre amoureuse ou érotique, certes, dans leur mouvement, la façon dont on entre dedans procède de certaines déterminations ou surdéterminations ou de ce qu'on identifie comme ça, plus ou moins, mais si ça se passe, ça nous met de nouveau direct en rapport avec l'indéterminé. Voilà, ça je répondrai ça. Alors sur la question de la castration, alors oui, j'ai pas ce soir parlé de ça, j'en parle dans le sexe prescrit. Alors évidemment que comment dire, comme où sont nos pénis d'antan, c'est exactement ça. Hein. Je renverrai effectivement au texte sur les théories sexuelles infantiles, c'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a une sorte de conjonction, évidemment qui commence à être un peu mise à mal, et pour cause, hein, entre une théorie sexuelle infantile qui serait « ah bah tiens, il n'y a pas de pénis, enfin il y a pas de, là il y a un pénis et là il y a autre chose », et ben ça veut dire qu'il n'y en a plus et qu'on l'a castré. D'ailleurs, je me souviens d'ailleurs d'une fille, une jeune femme que j'avais pendant un certain temps d'analyse, et qui avait une théorie sexuelle infantile comme ça, qui était qu'elle avait un pénis quand elle était dans le ventre de sa mère et qu'elle a été sectionnée à la naissance, qu'il est resté dans le corps de sa mère. Donc il y a tout ça, c'est des fantasmes, si vous voulez. Ce sont des fantasmes, mais des fantasmes, effectivement, qui ordonnent un certain partage des rôles et du pouvoir, ça c'est clair, et c'est pour ça que c'est tout à fait important de les combattre, et il me semble que c'est aussi un fantasme écran. C'est aussi un fantasme écran comme il y a des souvenirs écrans. Alors de même que je disais tout à l'heure, je ne l'ai pas dit dans ces termes, mais qu'on pense ou on se sent homme ou femme, je dirais par oui-dire, on sait qu'on est homme ou femme par oui-dire, mais vraiment par oui-dire, et je donne tout son poids à cette question du oui-dire. De même, je pense qu'une représentation qui a eu une telle fortune, je crois, enfin là, ce serait un peu long de le développer, mais je pense que c'est une représentation écran à une autre représentation qui est toujours... Alors, c'est lié à un imaginaire du corps masculin, évidemment, puisque le fameux... et évidemment à tout un imaginaire du corps masculin et à une façon d'asseoir, des pratiques de pouvoir et d'éducation, etc., sur cet imaginaire. Alors, premièrement, juste quand même une chose, c'est que Freud parle toujours de fantasme de castration. Et Lacan parle de la castration, la loi symbolique de la castration. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là où on a un passage entre un fantasme et puis une sorte d'érection, si je puis dire, du fantasme en monument. Et je pense à Flaubert quand il dit « érection ne se dit qu'en parlant d'un monument ». Mais non, mais c'est important par rapport à la question du masculin dont on parlait tout à l'heure, parce que justement sur cette question du masculin, à un moment donné, Freud, dans les trois essais, il dit que la libido est chez les deux sexes de nature masculine. Pourquoi ? Parce que l'usage serait que du côté du féminin, il y aurait la passivité, et du côté du masculin, il y aurait l'activité. Et c'est dans les mêmes textes où il dit, de toute façon, c'est des notions qui ne nous servent pas à grand-chose, ça se dissipe, c'est trop peu, ça nous sert à rien. Mais alors, quand même, si on revient à la question de l'activité, pour définir la libido, il y a un certain nombre de comparaisons pour décrire le mouvement de la libido par Freud, et il y a deux comparaisons contradictoires. Où d'un côté, on a, et on voit bien comment fonctionne le registre imaginaire, on a d'un côté l'activité, le modèle, ce serait la main qui prend, donc l'activité volontaire, donc l'érection permanente, ce qui est quand même très difficile pour les hommes. Mais non, mais on voit bien dans un certain nombre de troubles de la sexualité masculine comment ça peut fonctionner aussi sur cette incorporation hystérique, alors pour le coup, de ce signifiant du monument. Bon, qui est aussi le signifiant, la loi du père, etc. Mais quand Lacan parle de la castration, de la loi symbolique, en même temps, il nous dit les non-dupes errent. C'est-à-dire qu'il faut être dupe, mais il n'est pas dupe. Il nous dit aussi les hommes, les femmes, les enfants, ce ne sont que des signifiants. Sauf qu'il faut ériger ces signifiants en monument, donc la castration. Mais mon hypothèse, mais là, je n'ai pas le temps, mais juste une chose, c'est que ça fonctionne sur un imaginaire du corps masculin, d'une partie du corps masculin, et qui me semble pouvoir faire écran à un autre fantasme qui serait lié à un imaginaire du corps féminin, c'est-à-dire de la partie anatomiquement sexuée du corps féminin, encore que beaucoup de petites filles pensent qu'il y a trois sexes, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a les hommes et les garçons, d'un côté, parce qu'il y a le pénis, les filles et les femmes, parce qu'il y a des seins, et qu'elles deviendront un jour de l'autre sexe. Donc il y a toutes sortes de théories qui circulent. Mais sur la question juste de la zone, de la zone anatomique du sexe, eh bien, disons que là, ce qu'on voit chez le garçon, c'est donc ce pénis, cet appendice, et ce qu'on voit chez la petite fille, c'est une fente. Et la question de la fente, elle est quelque chose... Alors là, j'avais travaillé un peu les textes de Nicole Laureau, La cité divisée, qui sont quand même très intéressants sur, justement, la question de la fente, c'est-à-dire la cité, la division au sein de la cité, et du fait qu'il fallait absolument constituer un autre extérieur. Alors, à la fois la guerre civile, dit-elle, c'est-à-dire la division à l'intérieur même du corps des citoyens, est une loi fondamentale de la cité, parce que ceux qui ne prennent pas les armes en cas de guerre civile s'excluent de la citoyenneté. C'est dans le texte qui s'appelle « Le lien de la division » qu'elle explique ça. Et en même temps, il faut absolument fabriquer, et c'est l'invention du scrutin majoritaire, et la majorité et la minorité, hein, quelque chose qui produit quelque chose qui serait non fendu, si on peut dire, non divisé, quelque chose de soudé, qui s'entretient par la guerre extérieure. Alors, il y a la guerre civile qui est quelque chose... Voilà, hein, mais qui est, là, on exclut les femmes de la cité, quand même. Hein, on exclut les femmes de la cité. Mais alors, par rapport à quoi, il me semble... Enfin, moi, et tout ce qu'elle décrit aussi sur le corps masculin blessé à la guerre, tous ces textes-là m'ont fait me demander dans quelle mesure il n'y a pas, dans cette représentation de la castration... Il y a une publicité d'Act Up là, qui est assez intéressante sur le site. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans la presse, où il n'y a pas de sexe, ni masculin, ni féminin. Il n'y a ni pénis, ni fente. Bon, voilà, aucun support à fantasme de quoi que ce soit. Mais il me semble que le fantasme de la division, il est d'une certaine façon dangereux pour un certain partage du pouvoir où il y a les uns d'un côté, les autres de l'autre, parce que la division... articulée sur cette représentation imaginaire, on voit dans des petites sculptures néolithiques où il y a juste une fente, hein, c'est que ça divise des parts qui n'en sont pas, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un intérieur et un extérieur, il y a une étendue qui est traversée par une ligne, les lignes peuvent bouger. Hein. D'ailleurs, Freud dit que Psyché est étendue, n'en sait rien, ce qui serait le support d'une toute autre vision, je pense, de la sexualité. Mais alors, justement, pourquoi c'est angoissant, cette question de parts qui n'en sont pas? Pourquoi c'est un fantasme devant lequel il y a un fantasme écran, disons? Eh bien, mon hypothèse, c'est que ce serait lié au fait que c'est beaucoup plus angoissant, et ça c'est tout à fait explicite chez Freud, d'être en rapport avec du pareil qu'avec de l'autre. Beaucoup plus angoissant parce qu'effectivement, il y a quelque chose de troublé dans le souhait d'une unicité. Et ça renvoie évidemment au trouble aussi des signifiants, c'est-à-dire au fait que dans le langage, les mots, ils sont tout le temps fissurés aussi. Hein. Bon, donc, que des parts qui, non, c'est-à-dire le pareil et le presque pareil. C'est-à-dire que ça pourrait être le support d'une relation d'altérité qui est plus à penser comme altération, ce que j'appellerais la maladie du même fendu, quoi, que comme on est bien tranquille, il y a les uns et les autres. Et Freud développe très bien ça dans tous les textes sur le narcissisme des petites différences, en disant que, par exemple, les Espagnols haïssent les Portugais, que ceci, que cela, et qu'on est, on est beaucoup plus enclin à produire de la haine envers ce qui vous ressemble qu'envers ce qui est complètement différent. Parce que ça nous renvoie à l'image de notre propre même-té, si on peut dire, fendue. Donc je pense que s'il y a un refoulement de ce type d'imaginaire pour penser le partage, disons, social, c'est pour des raisons qui pourraient avoir trait à ça. Mais bon, ça, c'est vraiment une hypothèse.
Je me permets juste de... Il nous reste plus que quelques minutes, donc si on...
J'ai fini là-dessus. Okay. Et juste sur la masturbation, je crois que... Oui, juste, on va terminer là-dessus, c'est très bien.
Parce qu'il nous reste la masturbation, c'est pour ça.
C'est pour ça, mais justement, je termine sur la masturbation. Eh bien, d'une certaine façon, les pratiques auto-érotiques, bon, qui sont... Alors, elles sont auto-érotiques. Hein. Et d'ailleurs, cette question, ça ne veut pas dire qu'elles sont... c'est pas une pratique de monade, c'est-à-dire d'une entité close sur elle-même qui produirait de l'intérieur le plaisir. D'ailleurs, c'est Ferenczi aussi qui parlait, d'ailleurs, par rapport petite parenthèse, mais par rapport au terme d'homosexualité, Freud dit que Ferenczi emploie, et effectivement Ferenczi l'emploie, et que ce serait mieux d'employer ce terme, homo-érotisme. Et bien pareil, auto-érotisme, c'est-à-dire prendre son propre corps pour objet, son propre corps en tant qu'il est une zone, justement, un espace, un territoire, une géographie, tout ce que vous voudrez, parcouru par les traces du rapport à l'autre, au mot, au monde, etc. C'est-à-dire, il y a en général toujours des fantasmes qui accompagnent les pratiques masturbatoires, et quand elles sont très précoces chez les tout-petits enfants, puisqu'elles sont à l'heure, c'est aussi une manière de constituer son propre corps comme objet, c'est-à-dire comme extériorité, pas juste comme un chaos indifférencié où le dedans, le dehors ne se distingue pas, mais ça fait partie de toutes ces pratiques, c'est comme les doudous d'une certaine façon. C'est une pratique, je dirais, qui a à voir avec le caractère essentiel dans toute vie humaine et à tout moment de la vie de l'existence d'un espace transitionnel. C'est-à-dire d'une zone qui est à la fois soi et l'autre, mais qui peut être identifiée Et là, précisément par la production de plaisir. Donc je ne pense pas que la pratique auto-érotique soit une pratique close. Je crois que c'est une pratique qui réactive, sur un mode singulier, la manière dont l'intimité, comme disait Lacan, extime. Et c'est un mot que Lacan produit dans un de ses séminaires et que Jacques-Alain Miller a corrigé en disant qu'il fallait normaliser les paradoxes lacaniens. Et il le remplace par le terme de proximité, qui est un terme juste, qui est un terme freudien, mais c'est-à-dire que l'autre, il est en quelque sorte, d'une certaine manière, un sujet, un individu, mais c'est une foule, d'une certaine manière. On le voit bien dans le texte de Musil sur l'individu, les promenades dans la foule, hein, et puis on le voit mais dans certains arts, par exemple un solo en danse, c'est pas une intériorité qui s'exprime. C'est un corps qui est la surface traversée par toutes sortes de traces d'expériences et de retraductions. Donc c'est toujours un rapport à ses propres figures d'altération, y compris, et je pense que je préfère parler d'auto-érotisme. Donc d'ailleurs, Freud dit que toutes les pratiques humaines sont en fait des pratiques auto-érotiques, c'est-à-dire des pratiques où on se rejoint à travers la manière dont l'autre est l'occasion qu'on retrouve et qu'on redéplace des chemins qui nous ont constitués. Voilà.
Il nous reste... Ah non, bah tout le monde, on décide que c'est fini. On peut décider ça, mais je crois qu'il y avait une personne qui avait une question. Voilà, j'aurais juste aimé qu'on... Oui. Qu'on finisse bien les choses. Oui.
Bonjour. C'est une question un peu métapsychophysiologique.
Excusez-moi de vous interrompre. Pouvez-vous vous présenter ?
Christelle Lampert, master art de l'exposition et scénographie à Metz. En fait, vous avez parlé de la fixation du désir et ça s'explique avec la psychanalyse. Et je voulais savoir l'amour qui, contrairement au désir et le don de soi et l'envie de répondre, de satisfaire l'autre, alors que le désir c'est de se satisfaire soi-même, est-ce qu'il y a aussi un développement psychanalytique qui a été écrit sur l'amour, mis à part le choc amoureux de Alberoni? Et est-ce que la psychanalyse, enfin, quand un patient va voir un psychanalyste et qu'il commence à comprendre ses problèmes, il commence à guérir, est-ce qu'à partir du moment où on comprend les causes de l'amour et pourquoi on aime l'autre, est-ce que ça peut mener à la cessation de l'amour?
Bon, alors, très vite, hein, je vais répondre. Ah, il y a une autre question. C'est important, cette question sur l'amour. Ouais.
Et puis, on prend peut-être une dernière question. Je crois qu'il y avait quelqu'un. Oui.
Deux mots sur l'amour, quand même.
Une deuxième et dernière question, et puis...
Bonjour, Annie Ferrand, étudiante en master psycho. Je tiens d'emblée à dire que je connais parfaitement, enfin assez bien vraiment le discours lacanien en particulier et un peu freudien parce que ça fait 5 ans que je suis dans les associations analytiques. Je tiens à le dire en premier lieu. Je pense que c'est quand même important quand on propulse la psychanalyse dans des questions de genre, de dire que quand même Freud a noué absolument le refoulement, c'est-à-dire la question même de l'inconscient à la castration, que ça soit un fantasme ou que ça ne soit pas un fantasme, il s'agit très clairement de dire qu'il manque quelque chose à la femme et qu'en fonction de ce qu'il manque à la femme, ça peut manquer à l'homme et c'est cette menace-là qui fait refoulement et qui fait civilisation, enfin qui propulse l'homme dans la civilisation et qui propulse de façon beaucoup plus mineure la femme dans la civilisation et dans le symbolique, ce que reprendra Lacan dans d'autres termes. Enfin, je pense qu'on ne peut pas passer à côté quand même de ça, parce que si la psychanalyse a quand même dénaturalisé quelque chose, c'est peut-être la nature, donc elle a peut-être permis de penser l'hétérosexualité en inversion, mais par contre elle n'a pas du tout dénaturalisé et désessentialisé beaucoup de choses, en particulier la différence des sexes, c'est-à-dire le phallus. Ensuite, non, mais enfin, c'est Lacan, mais enfin, c'est aussi Freud. Je veux dire, quand vous avez une partition binaire, il s'agit très clairement d'un qui a le pénis et l'autre qui ne l'a pas. Et ensuite, on sépare le genre humain de cette manière-là. Ça, c'est du Freud, ça, c'est pas du Lacan. Ensuite, il y a tout un tas d'autres essentialismes. Il y a l'infantile, il y a le sexuel, il y a les sexes, donc, enfin, un et puis un autre qui n'en est pas tout à fait un, ou alors un autre qui en est un, mais bon, tout à fait mineur. Il y a évidemment l'essentialisme de l'inconscient, il y a l'essentialisme de l'objet sexuel, et puis bon, ça reconduit toutes les normes patriarcales. Enfin, je veux dire, si on ne déconstruit pas la notion de différence des sexes, mais de façon radicale. C'est-à-dire pas seulement en pluralisant.
Merci beaucoup.
Je vais répondre très vite parce que j'ai écrit un livre entier pour là-dessus justement, qui s'appelle Le sexe prescrit, la différence sexuelle en question, et j'écris d'ailleurs dans mon livre Différence des sexes en un seul mot, qui n'est pas du tout une naturalisation, qui est juste une façon de faire apparaître comment c'est une formation de l'inconscient, ce qui ne veut pas dire que c'est ni naturel ni purement culturel, et que en tant que formation de l'inconscient, comme toutes les formations de l'inconscient, eh bien, ça peut être des faits, pas déconstruits, des faits, parce que je ne crois pas du tout à la table rase, évidemment. Je crois qu'il y a toujours, en fait, ça, parce que ça supposerait qu'il puisse y avoir une sorte de justement d'origine pure de toute justement de tout ce proton pseudos, de toute cette fiction qui nous fabrique d'une certaine manière. Par contre, je pense qu'il peut y avoir toujours une retraduction en d'autres termes que différence des sexes en un seul mot. Bon, donc là-dessus, et je pense que par ailleurs, la question du refoulement, elle est beaucoup plus compliquée et complexe que ce que vous en dites. Hein. Et même chez Lacan, c'est 10 fois plus compliqué, parce que quand Lacan dit les hommes, les femmes, les enfants, ce ne sont que des signifiants, en aucun cas, il y a quelque chose qui renvoie à une quelconque essentialisation, loin de là. Je suis très critique vis-à-vis de Lacan, mais la critique qu'on ne peut surtout pas lui faire, et quand il parle aussi de cet hymne absurde à l'harmonie du génital, hein, la critique qu'on ne peut surtout pas lui faire, c'est celle-là. Je pense que ce n'est pas la bonne manière de critiquer les discours tenus au nom de la psychanalyse. Bon, alors je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je voudrais répondre sur la question de l'amour. Mais alors, du coup, j'ai un peu perdu la question. Mais non, elle me revient, ça y est. Je vais juste vous donner un petit énoncé qui est dans, je ne sais plus où exactement, je crois que c'est dans le texte sur l'identification, où Freud dit « Le cannibale aime ses ennemis jusqu'à les dévorer, et il ne pourrait dévorer ce qu'il ne peut aimer d'une manière ou d'une autre. » C'est-à-dire la question de l'amour, du point de vue de la psychanalyse, c'est jamais quelque chose... la psychanalyse n'a pas un point de vue, on va dire, entre guillemets, chrétien sur l'amour. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de don de soi, d'oblation, etc., même si tous ces éléments-là peuvent être évidemment présents. La question de l'amour, l'amour est inséparable d'une certaine manière de l'ambivalence. L'ambivalence qui ne veut pas dire qu'on ait de la haine pour l'objet, c'est pas amour-haine, c'est qu'on veut d'une certaine façon, c'est que le mouvement amoureux, initial en tout cas, et qu'on retrouve dans les rencontres amoureuses, c'est pour ça que j'ai cité le truc de Beckett là, qui dit « mais c'est horrible, on n'est plus soi », enfin, etc. Le mouvement amoureux, qui se combine ou non avec... ça s'accroche ou pas au désir sexuel, hein, et ça se mêle ou ça se mêle pas, dans des dosages très variables et très différents. Bon, mais en tout cas, le mouvement amoureux en tant que mouvement, le mouvement d'amour est un mouvement qui est un mouvement initialement d'identification à des fragments de l'autre qu'on veut incorporer. C'est-à-dire, c'est un mouvement de, disons, on va y employer un mot un peu galvaudé, mais fusionnel, quoi, si vous voulez, mais qui, du coup, par ce mouvement-là, a comme effet, non pas comme but, mais comme effet ou comme conséquence, possiblement la destruction de l'objet. Et on l'a bien vu dans des histoires très, très, très impressionnantes, hein, de cannibalisme, etc., bon, amoureux, hein. C'est-à-dire que le mouvement initial, et on le voit bien dans le langage ordinaire, hein, quand on dit à un enfant qu'on va le manger de baiser, ou je ne sais pas quoi, ou dans le langage amoureux, etc., c'est-à-dire qu'il y a quelque chose entre le mouvement de relation, d'incorporation de part désirée, aimée, de l'autre, faire de l'autre quelque chose à soi, d'une certaine manière. C'est-à-dire, il y a dans l'amour des mouvements très ambivalents, et ambivalents aussi par rapport au fait que quand on voit bien, d'ailleurs, la plupart dans beaucoup d'expériences, quand on tombe amoureux, souvent ça énerve. C'est-à-dire, ça provoque un trouble, c'est un trouble l'amour, mais un trouble au fond de. Et c'est vrai qu'une des manières d'évacuer ce trouble, c'est de se mettre dans le don de soi, qui est l'inverse de l'envie d'absorber l'autre. Voilà, bon, on pourrait parler des jours sur l'amour, mais on va s'arrêter pour aujourd'hui.
Et juste, enfin, moi, c'est moi qui vous dis d'arrêter. En fait, j'ai envie de relancer, mais je m'arrête tout de suite. Mais c'était, il y avait une référence, et la question était aussi, est-ce qu'il y a d'autres références?
Oui, ah oui, excusez-moi, vous avez raison. C'est, oui, il y a un très beau séminaire de François Perrier sur l'amour.
Voilà, c'est ça.
Dans la Chaussée d'Antin, qui est un texte, moi, je trouve magnifique, sur l'amour. Et quand même, dernière référence, Freud, l'amour de transfert. Et il dit bien qu'il n'y a aucune raison de dénier à l'amour qui apparaît dans le processus analytique la caractéristique d'un amour véritable. Voilà.
Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe tout de suite. Il ne marche pas trop.
À propos de livres, je vous rappelle qu'une sélection de livres est en vente à la librairie Flammarion, un niveau plus haut. Et là, on va enchaîner tout de suite avec le débat donc, sur les rôles sexués au travail.